Oui, je voulais intervenir pour expliquer un peu le modèle économique de la grande distribution. Donc en fait, c'est une triangulaire, on arnaque trois groupes, en fait, on arnaque les salariés en les payant bien en deçà de ce qu'ils apportent en volume horaire dans la semaine, on arnaque les fournisseurs en les payant à 120 jours fin de mois, et on arnaque les consommateurs grâce à des techniques de merchandising. Voilà, en fait, je suis professeur de marketing, c'est pas everyday low cost, mais everyday low price, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Hein. Chaque jour, des prix bas. Voilà, Daniel.
Oui, bonjour à tous. Je suis en train d'écouter l'émission sur la grande distribution. Et alors, c'est amusant parce que je sors d'un entretien pour un poste de chef de rayon dans une grande surface. Alors, c'était assez amusant parce que il faut faire 16 heures, ce qui est bien normal. Mais bien évidemment, le patron m'a dit, mais vous savez, si vous avez des livraisons un peu avant l'heure, il faudra venir avant. Après l'heure, il faudra rester après. Et éventuellement, on aura besoin de vous le week-end. Et tout ça pour eux, le SMIC, pour un chef de rayon. Donc ça m'a un peu amusé. Curieusement, je n'ai pas été pris. Bon, enfin, ce n'est pas très grave. Mais j'ai décidé finalement, et puis j'incite les demandeurs d'emploi à faire comme moi, c'est que sur votre CV, vous marquez, patron pas sérieux, ça peut tenir. Voilà, allez, bonjour à tous. Salut.
Et voilà, bonjour, je viens d'écouter l'émission France Inter, donc c'était vraiment génial. Donc je suis un agriculteur, viticulteur dans le Bordelais, et puis bon, on est concerné aussi, donc on est en bio, biodynamie, on vend très bien notre produit, mais bon, c'est encore dur, mais voilà, donc je rejoins la pensée de l'émission qui est vraiment géniale au niveau des petits. Mais ça serait génial de rassembler tous ces petits avec une personne qui arriverait à regrouper tout le monde. Voilà. Merci, bon courage, à bientôt, au revoir.
Oui, bonjour, je viens d'écouter avec grand intérêt votre émission sur la bataille de Limoges contre ce casino, parce que je suis moi-même président d'un collectif citoyen qui se bat contre un méga-centre équivalent à celui du Limousin, peut-être même plus grand, puisqu'il s'agit d'un hypermarché de 12 000 m², c'est casino toujours, 28 grandes surfaces, 140 boutiques, 6 000 m² de restauration, une véritable tornade dans une région toulousaine qui est déjà surchargée, hyper dotée en supermarché. Nous avons compté que ça ferait 80 000 tonnes de CO2 et 20 000 voitures par jour. Voilà. Ce sont des fonds de pension américains qui veulent nous imposer ce style de vie avec, comme vous l'avez dit, un projet de société. Alors nous votons depuis un an et demi et samedi 24 mars, nous faisons un grand sit-in de 12 heures hein, qui durera à midi jusqu'à 24 heures avec prise de parole. Nous avons fait des propositions alternatives et il y aura une soirée musicale. Voilà. Venez nombreux et nous pourrons vaincre ce mode de vie qui nous détruit tous. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce qui a été dit sur la destruction de l'emploi que nous avons chiffré nous-mêmes. Voilà, merci.
Bonjour, je suis Patrice de Saint-Étienne. Je viens d'écouter vos deux superbes émissions sur les grandes surfaces. Je m'aperçois que tout le monde est contre la mondialisation, contre le capitalisme, les actionnaires, mais que tout le monde porte, une grande partie des gens, même pour travailler aujourd'hui, portent des marques Nike, Adidas, Reebok, et que lorsque les grandes surfaces sont ouvertes les dimanches, il n'y a jamais autant foule que ces jours-là. Et souvent, ce sont des pauvres ouvriers, prolétaires, qui vont enrichir le capitalisme qui lui se frotte bien les mains. Voilà, je trouve ça scandaleux que les gens ne prennent pas davantage conscience qu'ils font leur propre malheur et font le bonheur des capitalistes. Au revoir.
Nous sommes beaucoup arrivés du petit commerce contre la grande distribution. Mais le petit commerce, c'est pas toujours ce qu'on croit. Moi, j'ai connu ça quand j'étais petit. Il n'y avait pas encore de grande surface, même pas des supérettes, comme on dit là maintenant. Je me souviens du boucher à Gradignan, là où va venir Louis Bozon aujourd'hui, pour le jeu des 1000 euros. Je me souviens du boucher Guillery, du charcutier Claverie, de l'épicier Baloge, du boulanger Bougnor. Je me souviens de tous ces commerces. C'est là que nous allions. Et ceux qui vont toujours là maintenant, alors évidemment... Ces commerçants-là, ils ont disparu. Quelques-uns sont morts. Mais ceux qui continuent à aller dans les petits commerces, à Gradignan, c'est les Rupins. C'est-à-dire, ça fait partie du standing d'aller acheter la viande chez le boucher, les épingles à linge chez le quincailler. Je ne sais pas s'il y a encore un quincailler, ceci dit, à Gradignan. Et les légumes chez l'épicier, c'est une épicerie fine, bien sûr. Et les prolos, à Gradignan, ils habitent... Il n'y en a pas trop à Gradignan. Ils habitent à Malartic. C'est un quartier, on appelle ça Malartic. Ils vont à Attaque. Ou alors, de temps en temps, ils prennent le bus et ils vont à Auchan, à Bordeaux. Parce que c'est moins cher. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire leurs courses chez le boucher. Je connais les noms, mais je ne vais pas les dire maintenant, parce qu'ils exercent actuellement. Et puis, ça permet de repérer la bonne société gradignanaise. C'est celle qui va toujours chez les petits commerçants. Alors, ça pose des questions, tout ça.
Bonjour Gaëlle de Nantes, je voulais répondre à la personne qui a dit que, comme par hasard, les terminus des tramways à Nantes étaient à côté des centres Leclerc. Bah, oui, effectivement, parce que Leclerc, c'est aux portes de la ville, enfin les grandes surfaces sont aux portes de la ville. Donc, merci aux tramways de ne pas se borner à desservir le centre-ville. De plus, et heureusement que les centres Leclerc, enfin les supermarchés, sont en dehors de la ville. Donc là encore, merci Jean-Marc Ayrault. Ensuite, il nous a dit que le centre-ville se meurt. Admettons, j'en suis absolument pas convaincue, étant résidente du centre-ville, j'ai pas du tout l'impression qu'il se meurt. Ceci dit, je remarque, moi, qu'il y a de plus en plus de banques dans le centre-ville. Donc, effectivement, une balade au milieu des banques, bah, ça donne pas très très envie.
Et ben voilà, des réactions très nombreuses, très très nombreuses, on est un peu débordés. Ou du moins, la boîte vocale de la Bastille, j'y suis débordé de vos réactions suite aux deux reportages d'Olivia Gesbert que nous vous avons présenté sur la grande distribution, l'affaire de Limoges, ce collectif qui lutte avec, qui a lutté avec succès contre l'implantation d'une grande surface casino aux portes de Limoges. Ça suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt, de passion et quand même, généralement, pas mal de rejets envers ces grandes surfaces, au moins dans la boîte vocale de la base où j'y suis. Mais enfin, dans la réalité, on sait bien à quel point ces lieux sont peuplés et des parkings remplis. Mais ça nous a valu quand même une petite nouveauté, un petit événement dans la Bastille, j'y suis, c'est qu'un élu, de la République a daigné répondre à un auditeur de la Bastille, j'y suis. C'est quand même un moment assez formidable. Oui. Général, bon ben voilà, c'est les petits, c'est les sans grattes qui sont au fond de cette boîte vocale. Et le gratin est ailleurs, et surplombe tout ça. Et ben là, non, pour une fois, on a une réponse d'un élu qui est Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, qui n'a pas du tout apprécié un message que vous avez entendu hier dans la base où j'y suis. Donc, on va réécouter ce message et puis la réponse et les observations de Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes.
Je profite de votre répondeur pour rebondir sur l'émission concernant la grande distribution à Limoges. Sur Nantes, le réseau de tramway qui fait la fierté du maire PS Jean-Marc Ayrault a la particularité de voir la quasi-totalité de ses terminus finir auprès des centres commerciaux Leclerc. Le commerce de centre-ville ne représente plus que 8% de l'activité commerciale totale, à opposer aux 25% de Bordeaux et aux 40% de Strasbourg. Les petits commerçants nantais se font complètement bouffer par ces grands complexes sans que l'opinion ne s'alarme. On peut de plus se demander si Ayrault, déjà condamné pour abus de biens sociaux dans les années 90, ne profite pas de ce système. Alors en voyant tout ça, je trouve qu'il est difficile d'imaginer faire confiance, que ce soit aux candidats de droite et de gauche, à qui profite ce système à gros sous. Voilà, merci.
Alors Jean-Marc Ayrault, vos réactions sur ces trois points, le tramway, le commerce centre-ville et une condamnation pour abus de biens sociaux
d'abord,
dans les années 90.
C'est totalement faux, cette condamnation, ça n'a jamais existé. Ce monsieur fait de la diffamation pure et simple, et s'il donnait son nom, s'il était courageux, je l'attaquerais immédiatement en diffamation. Par contre, je suis fier, et c'est pas parce que je suis maire PS, c'est parce que je suis fier avec plus de 90% des Nantais du réseau de tramway à Nantes, qui fait aujourd'hui plus de 40 km. Et je suis heureux que Nantes ait été la première ville à réhabiliter le tramway moderne. Et Ce tramway, il raccorde tous les quartiers de Nantes, en particulier les quartiers périphériques, les quartiers d'habitat populaire, qui sont très bien desservis du nord au sud, à l'est à l'ouest. Et il y a parfois des pôles commerciaux, parfois il n'y en a pas du tout.
Alors est-ce que les pôles commerciaux en question sont des centres commerciaux Leclerc, comme le dit
Bosca? D'abord, il n'y a pas que des centres commerciaux Leclerc à Nantes qui sont dans les quartiers périphériques ou dans les communes périphériques. Il y a des Carrefour, il y a des Auchan, il y a tout le monde. Et donc nous ne faisons absolument pas la différence entre ces centres commerciaux. Et le but, c'est pas de les desservir. Le but, c'est de desservir les populations qui, par centaines de milliers, utilisent chaque jour le tramway pour aller au travail, pour aller faire leurs études ou leur consommation, aussi bien dans les quartiers que périphériques qu'au centre-ville. Je rappelle d'ailleurs, contrairement à ce que dit cet auditeur qui dit n'importe quoi, qu'il n'y a pas 8% de commerce au centre-ville, c'est près de 24%. Donc tout ça est peu sérieux et qu'en effet, la ville de Nantes et la communauté urbaine de Nantes sont très très soucieuses de l'équilibre entre les commerces de centre-ville, de quartier, de périphérie des grands pôles commerciaux. C'est pourquoi avec la Chambre de commerce, on a signé une charte d'urbanisme commercial qui gèle les implantations en périphérie et qui se traduit d'ailleurs par une augmentation régulière du nombre de commerces qui ouvrent en centre-ville.
Attendez, je vous arrête. Vous avez pris des décisions qui permettent de geler l'extension des hypermarchés.
Nous sommes d'accord avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers lorsqu'il y a des dossiers qui sont présentés pour les examiner ensemble. Alors, s'il s'agit d'agrandissement pour rendre un magasin plus performant, évidemment, il y a le bon sens qui doit intervenir. Mais s'il s'agit d'augmenter ou de créer de nouveaux pôles, nous avons décidé de maintenir l'équilibre parce qu'il faut favoriser le commerce de centre-ville et de quartier. Donc aujourd'hui, il y a très peu d'autorisations qui sont accordées en périphérie. Et c'est une stratégie que nous avons adoptée. Ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Mais en tout cas, c'est un choix que nous avons fait parce que c'est important qu'on garde aussi une desserte de proximité.
Troisième point, une condamnation pour abus de biens sociaux dans les années 90.
C'est faux. Monsieur, c'est dommage que je ne connaisse pas son nom, je l'attaquerai immédiatement en diffamation, mais moi j'aime bien le débat, si vous voulez. J'aime bien le débat, mais je n'accepte pas qu'on traite à chaque fois les
élus. Pourquoi est-ce qu'il dit ça,
c'est pourri? Ben, parce que c'est le discours populiste habituel, je veux dire, c'est, on connaît, je connais le poujadeau, le pénisme, ça existe, simplement, moi je n'accepte pas et je le combats. Par contre, je suis pour le débat, si ce monsieur n'est pas d'accord avec ma politique, il a tout à fait le droit, mais qu'il le fasse au grand jour, ça serait quand même un petit peu mieux, plutôt que dans l'anonymat, qui n'est que de la lâcheté. Et on avait l'impression que ce monsieur lisait un papier. Je ne sais pas qui lui avait écrit, mais en tout cas, je trouve ça profondément choquant, même écœurant, mais moi, je fais mon travail. Et c'est pas parce qu'on est élu qu'on est forcément malhonnête. Et heureusement, en France, il y a des élus qui font leur travail avec leur conviction et leur conscience.
En tous les cas, je vous remercie d'avoir daigné. Vous êtes le premier élu à avoir daigné répondre à un auditeur de la basse
J'étais scandalisé et je n'allais quand même pas me laisser traiter de la sorte.
Merci
et
beaucoup.
Je le fais aussi en pensant à mes électeurs et qui sont aussi attaqués par ce genre de propos.
Voilà, merci à Jean-Marc Ayrault, dont acte. Mais c'est vrai qu'en fait, en règle générale, si vous pouvez indiquer vos coordonnées, votre téléphone, dans les messages que vous laissez, évidemment, qui ne seront pas communiqués à l'antenne, ça nous facilite la vie et ça évite ce côté un petit peu, effectivement, ce côté un petit peu corbeau du répondeur de la base, si j'y suis, ce côté je suis anonyme, je balance, etc., qui n'est pas fait pour nous, toujours pour nous plaire. Voilà, si vous pouvez laisser votre numéro, ça nous facilitera l'existence, ça facilitera les débats et la libre expression. On continue avec vos réactions sur cette histoire de grande distribution.
Allô, bonjour, Daniel Mermet et toute l'équipe, Sylvain Loison de Vittel. Alors je voulais vous parler d'un effet très très important de la grande distribution sur des entreprises telles que Vittel, qui était d'une extrême prospérité dans les années 70 et qui vivait toute seule. Et brutalement, quand la grande distribution est arrivée, les cartons étaient complètement modifiés. En effet, car pour être référencé, il fallait être fort. Or, une entreprise seule, une marque seule ne pouvait plus rien faire. Il a fallu s'associer. Alors, les effets directs très importants. Il a fallu donc investir énormément et les grands groupes sont arrivés pour ça. C'est-à-dire que pour établir un contre-pouvoir, il a fallu s'associer progressivement dans le cadre du groupe Nestlé avec Contrexéville, Perrier, etc., marques très concurrentes auparavant. Et puis progressivement, donc un énorme monstre d'associations de marques s'est fait et Vittel a été progressivement dilué. Bien sûr, le deuxième effet, de productivité maladive, pour garder des marges, il a fallu investir dans des entreprises, ce qui fait que le capital qui était contrôlé est devenu incontrôlable, comme ça l'est devenu maintenant. Et puis, bien entendu, un autre élément de la grande distribution, c'est qu'il a fallu des emballages plastiques pour la facilité de commercialisation et éliminer ces bouteilles de verre qui étaient beaucoup plus écologiques. Et en fait, voilà, une grande dévastation écologique est née aussi de la grande distribution de manière indirecte. Voilà un petit peu. Et donc, au lieu d'assumer la prospérité d'une petite ville, comme toutes les marques le faisaient dans le passé, maintenant, ça devient la prospérité des unités telles que Vittel assure la prospérité d'un groupe. Et l'usine de Vittel ne fait plus du tout, me fait penser un petit peu à la grosse soucoupe volante du film Independence Day. L'usine de Vittel flotte au-dessus de Vittel et on a l'impression qu'elle n'appartient plus du tout à l'histoire de cette petite ville.
Alors j'interviens au sujet de l'émission sur la grande distribution du groupe Casino. Alors moi j'étais partie prenante sur un projet qui a capoté, à savoir sur Seno l'installation d'une surface commerciale de 28 000 m² au départ, pilotée par le groupe Casino et qui venait en renfort sur l'hypermarché géant Casino sur la commune de Seno. Alors la particularité de ce projet, c'est qu'il était adossé à un projet immobilier, à savoir que Casino faisait de la grande distribution une grande surface commerciale avec un projet immobilier qui était concédé par la commune de Seno. Alors, étant commerçant sur cette commune, j'ai mené le combat au départ tout seul, à savoir que j'ai transformé mon magasin en tribune informative sur la population de Seno, ce qui m'a valu un procès par le groupe Géant Casino, en référé, et ensuite étant adhérent à la Fédération des commerçants de Haute-Savoie. Celui-ci a mené également le combat auprès du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé l'autorisation obtenue en CDEC, la commission départementale des climats commerciaux, ce qui a fait un big bang politique sur le bassin annécien. Tous les élus, effectivement, ils sont de droite sur le bassin annécien, même sur la Haute-Savoie, nous sont tombés dessus parce qu'on avait fait capoter ce projet qui apparaissait essentiel sur le bassin annécien.
Bonjour, eh bien, je suis Olivier, donc agriculteur dans la Drôme, dirigeant associatif d'une association de vente directe de producteurs aux consommateurs. Alors, je voudrais répondre donc à l'auditeur qui parlait de 15% de minimum de marge à imposer aux grandes surfaces. Il faut savoir qu'il doit parler des produits manufacturés, hein, je crois que c'est un commerçant qui parlait. Il faut savoir que pour les produits agricoles, les marges sont bien plus importantes parce qu'elles vont souvent au-delà de 30, 35, voire 40%. Que les produits du supermarché sont non seulement dégueulasses, mais en plus de plus en plus chers. Et que pour répondre aussi à ce monsieur socialiste et élu maire de Fétia qui dit qu'il y peut rien, que les gens de savoir là où les gens vont faire leurs courses, lui répondre aussi que peut-être il y peut quelque chose d'être membre d'un parti qui se dit de gauche, hein, et qui ne parle absolument pas des contrats OMI. Et ça, il faut le dire à tout le monde, il faut que tout le monde le sache, les contrats OMI, ce sont des main-d'œuvre immigrés, hein, qui n'ont aucune protection sociale, aucun droit à rien, qui sont payés 5 à 10 francs de l'heure, qui viennent, qui travaillent une année gratuite pour avoir le droit de revenir, qui sont donc des esclaves. Il faut savoir que tous les auditeurs français sachent que la plupart des produits et des fruits et légumes vendus dans les supermarchés, dans les plateformes, sont ramassés par des esclaves. Et ça, si on attend encore Royal, Sarkozy ou Bayrou, le trou de balle, nous en parle, c'est pas demain, la veille. Merci, salut, ciao.
C'est vraiment l'auditeur qui s'est mis en pétard tout seul avec son téléphone. Mais bon, voilà, c'est une colère, ça s'appelle un coup de gueule. Aujourd'hui, on va rester un petit peu sur ça, encore une fois, pour cette heure, sur le thème de la grande distribution, sur un témoignage, le témoignage d'un agent de sécurité qui était devenu, vous allez le reconnaître sans doute, qui d'abord a travaillé comme agent de sécurité, puis en échange d'une promesse de promotion, a, bien sûr, sécurité, ça voulait dire contrôler les clients, et qui, sous la promesse d'une promesse de promotion, dans l'entreprise est devenu, il s'est mis à contrôler ses confrères, les collaborateurs de la boîte, et il a comme ça suscité plus de 100 licenciements. Il s'était confié à nous il y a quelques mois et on va le retrouver aujourd'hui, à la fois évidemment pour montrer les pratiques professionnelles dans la grande distribution, mais de façon plus générale un exemple de dégradation des conditions de travail dans notre beau pays. On reçoit chaque jour, là-bas, j'y suis aussi bien sur le répondeur que sur le mail de l'émission, des témoignages de toutes sortes sur cette dégradation du travail. Donc ça va être notre sujet du jour. Mais auparavant, d'autres messages encore, on est un peu débordé par les messages, qui ceux-là traitent d'autres questions.
Bonjour, Guy du département de l'Ain. Si l'on en croit la radio et les divers médias, un certain nombre d'enseignants s'apprêtent à voter François Bayrou. Je voudrais simplement rappeler ces gens qui sont un peu babas devant lui que ce même François Bayrou, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, s'est illustré en faisant descendre environ 1 million de personnes dans la rue parce qu'il voulait à nouveau accorder toutes ses faveurs à l'enseignement privé et par là même déshabiller un petit peu l'enseignement public. Voilà, il ne faut peut-être pas oublier l'histoire récente, relativement récente. Bonne journée à tous, qu'on se le dise, au revoir.
Oui, alors les syndicats, qu'attendez-vous pour se mettre en grève dans l'industrie en voyant tous les licenciements qui vont se passer dans les mois à venir? Airbus, 10 000 suppressions d'emplois. Là, faut faire quelque chose. Même nous, là, je travaille dans le sous-traitant de l'automobile. C'est l'hécatombe. Alors, il faudrait peut-être qu'on se réveille quand même. Hein, ils vont nous manger, non? Hein? Ils nous pressurisent déjà. On est obligé, ils réduisent encore là où je travaille. Là. Il y a des les intérimaires, ça y est. Il y en a qui sont partis. Ils sont pas contents. Ils sont partis tout de suite. Hein? Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller? Parce qu'ils vont pas nous faire de cadeaux, le patronat français, le MEDEF. Ils veulent, à mon avis, comme j'ai lu dans un bouquin, ils veulent gérer la France comme une entreprise. Hein? On privatise tout. On détruit tout. Ah, c'est ça la droite. Là, ils veulent tout casser. Puis on se réveille pas. On dort. On attend, je pense qu'on l'attend. Hein, ils vont nous faire la peau. Il y en a marre. Ben, en plus, l'essence, c'est reparti à la hausse. Hein, ça commence à nous coûter cher. Les gens qui gagnent le SMIC, même les jeunes, tout ça, comment qu'ils font? Puis on dit rien, on bouge pas. On l'a. Moi, ça me met en rogne, moi, des moments. Moi, je travaille, je rumine même en travaillant.
Salut Daniel, c'est Christophe Chimel de la Gare d'Acier. Je t'appelais pour te dire que demain soir, donc jeudi 1er mars, on crée un collectif L'Otroi pour la défense et le développement des services publics à la Bourse de Travail à Cahors à 19h30. Voilà. J'appelle tous les citoyens et syndicats à se réunir pour organiser un contrôle citoyen des services publics dans le Lot. Salut, à bientôt, au revoir.
Troisième semaine du Mois Carrefour.
Et chaque jour, des surprises à prix spécial 40e anniversaire. Dépêchez-vous. Le Mois Carrefour, ça
continue. Donc là, on se trouve dans le premier étage du magasin Carrefour, avec le magasin qui est devant nous. Là, il y a le rayon frais en dessous, le rayon lait. Là, il y a les classements.
Les classements du magasin, ouais.
Donc là, c'est classement national. Vous êtes sixième pour le chiffre d'affaires. Ça, c'est la salle de pause.
Le chef de la sécu, c'est ici.
D'accord. Le chef de la sécu, il est là. Ouais. Donc, on va aller voir
Le adjoint.
C'est le
directeur.
Là, je vais dire bonjour, alors.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Vous faites dans l'entreprise?
Qu'est-ce que je fais dans l'entreprise? Je fais un reportage. Je suis en reportage sur les caméras de sécurité, les filatures cachées.
Vous n'avez rien à faire ici, monsieur.
Pardon? Mais vous étiez au courant de ces caméras cachées?
Je viens de vous donner mon sentiment. Pas de réaction, monsieur.
Vous n'avez pas de réaction du directeur?
Non.
Et les filatures?
Au revoir, monsieur.
La manière dont on a fait pression sur
des... Au revoir,
des...
monsieur. Au revoir, monsieur.
Oui.
Au revoir.
Mais attendez, je cherche à discuter avec...
Non, monsieur, vous êtes dans un espace privé, donc au revoir, monsieur.
Au revoir, monsieur.
Vous savez, c'est le travail de la presse d'avoir...
Voilà, le travail de la presse, c'est de juste derrière la
presse. Voilà, merci. Vous êtes dans la violation d'un domicile privé. Alors, vous sortez, s'il vous plaît.
C'est un magasin Carrefour. Je fais mes courses chez Carrefour tout le temps.
Ça ne vous empêche pas.
Et j'ai été déçu quand j'ai appris ça ici, vous savez. Ça m'a fait...
Pas de commentaire, parce bien, monsieur.
Il y a un lien quasiment affectif qui se fait avec son magasin.
Au revoir, monsieur. Monsieur, vous n'avez pas violé la porte de mon entreprise, juste impunément.
On va au local, donc. De la CGT avec M. Gendou.
C'est la Gestapo ici. Je ne sais pas quoi que c'est...
Je pense que pendant 15 jours, je vais être surveillé du matin au soir. Bon, je vais acheter un gilet pare-balles parce qu'on ne sait jamais avec eux.
C'est aussi ça le programme Mieux Consommer. Carrefour. Carrefour. Carrefour, je pose
et vive. Alors on a mis du temps à le consoler, hein, François Ruffin. C'est vrai qu'il est attaché à son magasin, Carrefour, c'est un lien affectif. Oui, il y va depuis qu'il est petit, il est jeune, Ruffin, donc il y va depuis qu'il est petit, à Amiens, ils ont un magasin Carrefour, donc il y va, et puis voilà, il est content. Et puis il a appris des trucs, il a appris que Carrefour, 60 milliards de chiffre d'affaires, 420 000 salariés à travers le monde, 10 000 magasins à travers le monde, et voilà, qu'est-ce qu'il apprend, Ruffin, consterné, que, eh bien, dans un magasin à Écully, il y a des histoires terribles. Des histoires incroyables, de caméras cachées, de filatures, d'agents de sécurité qui, comme je le disais, en échange de promesses de promotion, finissent par espionner leurs propres confrères et suscitent de cette façon des licenciements. Des histoires absolument épouvantables, mais enfin qui montrent quand même que ça se dégrade sérieusement. Il y a bien sûr le chômage, il y a bien sûr la précarité, il y a bien sûr toutes les formes d'intérim avec le travail partiel, à temps partiel non choisi, mais il y a aussi le boulot de merde. Voilà, ça se multiplie. Et ça date pas d'hier, bien évidemment, mais ça s'exprime de plus en plus. La semaine prochaine, on recevra Pierre Karl qui sort son film Volem Rien Foutre, Al Pais. Il y aura peut-être un lien à faire entre ce film et ce qu'on va entendre aujourd'hui. C'est une forme de corruption morale, c'est-à-dire que la précarité mène à la servilité, et la servilité conduit à faire des choses pas très propres. Je pense pas que, il faut quand même être honnête un petit peu, que Carrefour ait le monopole de ce genre de comportement, enfin d'induire de tels comportements, mais enfin, puisqu'on est dans la grande distribution, restons-y, on est avec François Ruffin qui est si malheureux dans son coin jusqu'à 16h dans la base du Jésus.
Carrefour. Ouais, ça va. J'ai fait une dizaine d'années. J'ai fait du Continent, du Leclerc, j'ai fait du Mammouth, jamais de Auchan, j'ai jamais travaillé chez Auchan. J'ai fait du Carrefour, Intermarché aussi.
Et vous, depuis quand vous travaillez chez Carrefour alors? Enfin, pour Carrefour plus exactement, parce que vous n'êtes pas salarié Carrefour.
Je suis pas salarié Carrefour, mais bon, on va dire, en tout et pour tout, j'ai fait 5 bonnes années. J'étais quelqu'un qui était très strict dans mon travail. On va dire même un peu méchant, parce que je souriais jamais avec le personnel. On m'avait toujours dit ne pas fréquenter le personnel pour mieux travailler. Et moi, pour évoluer, ben, c'est ce que je faisais. Les débuts, j'ai même mangé mon sandwich, jamais je ne rentrais en salle de pause.
Pour pas fréquenter les membres du personnel.
Pour pas qu'il y en ait un. Ou alors, s'il y en a un qui, si je rentrais en salle de pause... pour manger mon sandwich, et puis que y a un membre du personnel qui venait se mettre à ma table, et si par hasard le chef sécu passait, ben il me regardait de travers. Alors ça fait que ça m'incitait à manger dans mon local vidéo, quoi. C'est-à-dire... À la fin, j'ai fini par manger dans le local vidéo.
C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait de contact entre les surveillants, entre les agents de sécurité et le personnel, de peur qu'il y ait des sympathies qui se créent.
Voilà, et que y ait des magouilles qui se forment, quoi. Style, je vais être bien avec une caissière, je vais faire passer des caddies complets.
Carrefour vous suit dans toute la France. Carrefour. Carrefour.
T'es pas sur la photo, Gaston? Avec le Père Noël.
Non, non, moi j'y suis pas là.
Quoi? Lui viré. Lui viré.
Alors
lui
attendez, viré. On regarde une photo où il y a un Père Noël.
Fin d'année.
Père Noël au milieu, c'est quoi comme photo ça?
Bon, c'est une photo de fin d'année qu'on avait fait en galerie avec l'équipe sécurité, une partie de l'équipe. Et puis là, en la regardant justement, j'étais en train de dire. Les trois quarts qui sont sur la photo, ils ont tous été virés.
Voilà, voilà les méthodes qu'on peut observer chez Carrefour. Je cherche mon petit papier pour vous rappeler une chose importante. Carrefour, plus de 60 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires, 420 000 salariés et quelques 10 000 magasins à travers le monde et une devise toujours moins chère. Comment fait-on pour que ce soit toujours moins cher? Et bien, on fait comme ça. Et on fait une pression permanente sur le personnel, sur les 420 000 salariés de Carrefour. On les surveille. C'est pas seulement vous qui souriez devant la caméra, qui vous dit « souriez, vous êtes filmé ». Et bien sûr, vous souriez quand vous êtes là en train de pousser votre caddie, vous faites coucou à la caméra. C'est pas seulement vous qui êtes filmé, c'est les 420 000 salariés. Peut-être pas les 420 000, peut-être 410 000 seulement, peut-être 400 000. En tous les cas, beaucoup. Et là, on est avec Régis et Gaston. Régis, c'est son nom. Gaston, c'est pas son nom. Et il nous raconte, c'est plutôt Gaston aujourd'hui, qui nous raconte comment ça se passe dans cet espace sous l'ombre positive.
Ces trois-là ont été virés. Lui, il est parti sous la pression et s'est pris une année sabbatique, apparemment. Là. Ouais. Lui, il est parti.
Il n'existe plus parce qu'il a fréquenté une caissière.
Il sortait qu'une caissière. Elle l'a dégagé.
Ouais, il y a longtemps.
Lui, il a été viré.
C'est pareil. Et lui, c'est pareil.
Lui, c'est pareil. Ils ont tous été dégagés.
Avec Carrefour, jeu positive.
Mais attention.
Là, vous avez sorti des photos.
Voilà, la photo. La façon dont vous voyez, veste de survêtement, t-shirt, jean. On était tout le temps en civil, on n'était jamais en tenue. Je venais même avec des tongs pour travailler l'été. Bermuda, on aurait dit que j'allais sur la plage, quoi.
Et derrière, il y a plein d'écrans de.
Ah bah, ça, c'est notre local vidéo, ça. Hein. Ça, avec ce clavier, bah.
Donc là, c'est un petit clavier, genre clavier téléphonique, avec des petites manettes sur les côtés.
On dirait une PS2, quoi. Une PlayStation, bah, c'était notre joujou à nous, ça.
C'est-à-dire que ça, c'est pour faire des zooms et puis tout ça?
Ouais,
changer
ouais,
de caméra.
Ouais, changer de caméra, les zooms. Et puis avec ça, ben, on avait toutes les caméras qui étaient cachées dans tout le magasin, dont ni les syndicats, ni la préfecture n'étaient au courant.
Il y avait des caméras où, par exemple?
Dans toutes les réserves. Dans toutes les réserves, les points sensibles du magasin. Le samedi soir, on restait, ou alors le vendredi soir, on restait après 22h. Et puis, la pose d'une caméra, il fallait être au minimum deux. On faisait ça jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Le but de ces caméras dans les réserves, c'était tomber du personnel. Virer du personnel pour être fort, pour être meilleur, quoi. Quand on faisait du bon boulot comme ça, on était même félicité par la direction, quoi. On disait, ouais, c'est bien. Puis même le directeur était content quand il avait des contrôles par rapport au directeur régional. Il sortait les chiffres, puis il disait, voilà, vous avez vu, Écully était premier en région Rhône-Alpes. Ça nous est arrivé de faire en une année 37 membres du personnel.
37 membres du personnel, c'est-à-dire?
Entre les caissières, les intérimaires qui travaillaient, les gars qui étaient dans les mises en rayon. On en a fait 37.
C'est-à-dire que vous avez réussi à en virer 37?
En une année, ouais. Pas à moi tout seul, hein, bien sûr. À 3-4 collègues, vu qu'on travaillait à 3.
Et l'objectif, c'était d'en avoir un maximum?
L'objectif, c'était le plus gros chiffre, quoi. Sur les 37, j'en ai fait 20 au minimum. En une semaine, j'en avais fait 6. 6 caissières qui laissaient passer de la marchandise. Un petit jeune qui travaillait en épicerie, hein. Il a été viré pour avoir consommé un yop.
Pour un yop?
Ouais. Pour un yop qui était destiné à la casse. Il était ouvert, bah, et s'il a faim, il avait soif, il l'a consommé, quoi. C'était à jeter à la poubelle, à la benne.
Plus que jamais avec Carrefour, je positive.
Si le personnel consomme, même prend un gâteau dans un paquet qui a été ouvert par la clientèle, ou un paquet de gâteaux qui va à la benne, Si la personne est vue en train de consommer un de ces produits, c'est la porte directe. On lui demande de prendre ses affaires et on mise à pied et terminé.
Parce qu'elle a mangé un gâteau.
Parce qu'elle a mangé un gâteau. Ou...
qui était destiné à être jeté. Enfin.
Voilà. On a eu des gens qui devaient détruire de la marchandise au compacteur. Ils ont eu le malheur de récupérer un article dégradé, cassé, destiné à la destruction. Il a été interpellé et viré sur le champ. Quoi. Et là, il avait récupéré notamment un rideau de douche complètement défoncé.
C'est vous qui l'avez arrêté ?
Ouais, ce qui s'est passé, bah, on l'a interpellé et puis on lui a demandé de partir. Il a été licencié sur le champ. Et pour un rideau de douche, par malheur, bah, c'est tombé que je l'ai filmé. Quoi.
De mon employeur, c'est peut-être parce que j'ai commis une erreur que je monte les marches de mon employeur. C'est à cause de cette farce que je lui ai joué tout à l'heure. Je lui ai dit merde, le boulot, t'as qu'à le faire tout seul. J'aurais pas dû, ça va me perdre, mais ça va être la gueule. Alors je monte les marches de mon employeur, je vois déjà la hache, le bio et j'ai peur. Je monte les marches et je lègue sous leurs acclamations mon poste à mes collègues, je sens leur admiration. Je monte les marches et c'est bon, je suis à Cannes au festival. J'ai en poche une nomination pour la palme du mec le plus mal. Ce jour avec bonheur, je me souviens de ce jour où mon employeur m'a dit jeune fou, vous avez du caractère, j'ai besoin d'hommes comme vous, je double votre salaire. Fini les 3-8, je suis chef d'équipe et je garde l'œil sur mes sous-fifres. Les tirs au flanc, c'est promis, je les nique. On est là pour faire du chiffre. Du haut des marches, je délègue, je distribue les missions à mes ex-collègues, je sens leur admiration. Du haut des marches, c'est bon, je suis à Cannes au festival. J'ai en poche une nomination pour la palme du mec le plus sale.
Là, vous avez parlé du contrôle avec les caméras, mais vous avez fait aussi du contrôle plus direct.
Parce que les caméras, on pouvait pas, ça demandait trop de travail pour tirer le câblage. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? Ben, carton de frigo américain, hein, sandwich et une bouteille d'eau. Hein, et on y passait la nuit, à 4 mètres de haut, et on surveillait les membres du personnel. Il y a même...
C'est-à-dire que vous passiez votre nuit à 4 mètres de haut dans un carton ?
Debout.
Debout.
Ben oui. On pouvait pas mettre une chaise dans un carton de frigo américain. Il fallait surtout pas s'endormir, parce que ça m'est jamais arrivé, mais de tomber de 4 mètres de haut dans un carton fermé, je sais pas ce que ça aurait donné.
Et donc dans le carton, il y avait des petites ouvertures
par... Ben oui, on faisait les ouvertures au cutter. On faisait une plus grosse ouverture de l'intérieur, mais on mettait juste un coup de lame. Et on arrivait à voir, à visionner. On avait tout un champ de vision sur la réserve, sur les membres du personnel.
Et qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple ?
Bah, une dame d'un certain âge, qui lui restait pas très longtemps pour sa retraite. Un crayon à papier.
Elle a volé un crayon à papier ?
Ouais. Elle a récupéré un crayon à papier dans la réserve, dont elle avait déballé. Elle est partie avec. Elle a quitté la surface de vente, la réserve. Elle a été interpellée, et comme il lui restait que quelques années, et que ça faisait des années qu'elle était là-bas, ils l'ont pas virée, ils lui ont mis 3 jours de mise à pied, il me semble. Et après ça, bah, ils l'ont changé de secteur, ils l'ont mis à la cafétéria, à la plonge, quoi. Donc, nettoyer les tables. Et puis, quand elles avaient pas volé, on faisait le maximum pour qu'elles volent, quoi. Parce qu'on avait les adresses de quel quartier elles venaient. Si elle venait de la Douchière, c'est un quartier chaud. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait passer plus de temps sur cette caissière parce qu'elle venait de là-bas. Fallait la surveiller et puis il fallait faire le maximum pour essayer de la shooter, quoi, de la virer. Ça nous arrivait de poser de la marchandise, de l'argent, des bons de réduction, des bons d'achat. Et si elles prenaient, c'était du vol. On les incitait à voler pour les virer parce qu'elles venaient d'un quartier pas bien, quoi.
Donc, c'est-à-dire que là, c'était plus de la surveillance, c'était des pièges étaient tendus.
Non, c'était pas de la surveillance, c'est des pièges tendus, bien sûr. Bien sûr.
Il y a des pièges qui ont fonctionné comme ça, ou des fois vous avez tendu des pièges ?
Des pièges qui ont fonctionné, on est arrivé où ça a fonctionné, c'est l'hôtesse de sécurité qu'on avait qui. Discutait un peu trop avec les syndicats et une personne de la CGT. Elle discutait bien avec lui, elle prenait le café avec lui et tout. Et comme à plusieurs reprises, le chef sécurité l'a vu, Alors, ça lui a pas trop plu et un jour, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit voilà.
Carrefour. Alors là, je retrouve le plaisir de faire mes courses. Avec Carrefour, je positive.
Fliquez-vous les uns les autres. Voilà le principe, voilà la devise. Pourquoi la précarité dans l'emploi? Pourquoi la précarité? Eh bien, parce que c'est la docilité dans l'emploi. Eh oui, c'est tout simple, c'est aussi bête que ça. La précarité, c'est la docilité. La précarité, évidemment, c'est la destruction du syndicalisme. On peut plus se défendre. Et voilà l'intérêt de cette précarisation. Surveillez-vous les uns les autres. On se souvient en 89, 90, je crois, l'ouverture des archives de la Stasi. Lorsque les Allemands de l'Est ont découvert, ahuris, effarés, qu'ils se surveillaient les uns les autres, que les uns faisaient des rapports sur les autres, entre amis, dans la famille, on ne savait pas qui avait surveillé qui et qui avait fait un rapport sur qui. Eh bien, bien sûr, toute proportion gardée, il y a quelque chose quand même qui ressemble assez.
Donc là, on se trouve dans l'ouest lyonnais, dans un village de l'ouest lyonnais. On va rendre visite à mademoiselle Lydia, qui était hôtesse de sécurité chez Carrefour. Bonjour le chien.
Bonjour. J'ai été embauchée par une société de sécurité, donc qui était prestataire de service pour Carrefour et Cully. Et puis au début, ça se passait très très bien. Hein. J'y suis restée quand même presque 2 ans, 1 an et demi. Le chef sécurité, il a monté un coup de façon à ce qu'il puisse me virer, quoi.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a monté comme coup ?
Bah, il a fait en sorte, parce qu'il savait très bien que, bon, à l'entrée, on gérait les objets trouvés aussi. Tout ce qui était objet trouvé en galerie, en magasin, on nous y donnait, puis on devait y inscrire sur un cahier, et puis y garder au cas où les gens réclameraient. Mais les agents de sécurité ou les hôtesses sécurité, parce qu'on était plusieurs, c'est vrai qu'elles... La plupart du temps, elle gardait les choses trouvées. Hein. Faut dire ce qui est. Donc tout le monde gardait. Ça, c'était.
C'est-à-dire que c'était objet trouvé pour les agents de sécurité surtout.
Voilà, les agents de sécurité, quand ça leur plaisait, ils gardaient. Hein. Les hôtesses aussi, hein, je vous rassure. Hein. Alors, ce jour-là, on m'a rapporté un porte-monnaie où il y avait de l'argent dedans.
Il m'a dit voilà, ce qu'on va faire, on va mettre un billet de 50 euros dans le porte-monnaie que j'ai récupéré dans les objets trouvés. Je suis d'accord. Photocopie recto verso du billet. Par contre, il m'a dit, si le billet disparaît, c'est pour ton cul. Et ce porte-monnaie, on l'a fait amener par un caddie-boy à l'hôtesse de sécurité. Moi, je suis descendu dans le local vidéo et on a filmé la personne. Et la personne, au bout du compte, elle a pris le billet de 50 euros.
Bon, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, tiens, je vais laisser le reste et puis je vais prendre le billet. Et en fait, c'est un piège. En fait, je montais en pause. Et puis, donc, M. Montiou m'a interpellé dans le couloir et puis m'a dit « Oui, venez dans mon bureau, j'ai un papier à vous faire signer. » Donc, il m'a demandé de faire une attestation contre un employé de Carrefour, qui est handicapé en plus, pour mentir et dire que cette personne m'embêtait quand j'étais à mon poste de travail, que cette personne me harcelait, que c'est... Enfin, je sais plus ce que j'ai écrit exactement, mais bon, il m'a dicté ce qu'il fallait que je mette, hein, et que je signe pour qu'il puisse le virer, justement.
Avec la pression, il lui fait faire une attestation sur l'honneur comme quoi elle est harcelée par cette personne handicapée. Tous les jours. Et pour lui, c'est un motif pour pouvoir le virer.
Donc moi, je me suis dit, il me demande de le faire, j'avais peur de perdre mon boulot. Donc, je l'ai fait, quoi.
Et pourquoi t'avais peur de perdre ton boulot ?
Parce que j'avais un appartement, j'avais un crédit voiture, j'avais plein de choses à payer. Et
il t'a dit, soit tu signes ce papier
pour... Non, il faut signer ce papier. Donc, j'ai pas discuté, j'ai signé parce que j'avais peur qu'il me dise, si vous signez pas, vous êtes viré, quoi.
Une fois qu'elle a fini l'attestation, elle lui dit, maintenant, vous me sortez le billet de 50 euros.
Après, c'est ça, il me dit, vous posez votre talkie-walkie sur le bureau. Pardon, il me dit, vous posez votre talkie sur le bureau et puis vous sortez les 50 euros.
Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le sort, elle l'avait dans la chaussure, elle le sort. Elle dit, maintenant vous posez la radio.
Alors j'ai posé le talkie, puis je vais sortir les 50 euros et puis il me dit, vous êtes viré.
Et puis on appelle la gendarmerie. La gendarmerie arrive, elle est amenée en gendarmerie, dépôt de plainte.
voilà, ça a été un petit peu la descente aux enfers quand même, hein, parce que j'ai tout perdu. Hein. J'ai perdu. J'avais quand même des gens avec qui je travaillais, que j'aimais beaucoup, que je revoyais plus. J'avais un appartement sur le dos, plus de salaire. J'avais un crédit de voiture, plus de salaire. Après, ça a été la descente aux enfers.
D'une pierre, il a fait deux coups. Il a viré l'hôtesse de sécurité et l'handicapé a été viré de Carrefour aussi. Alors que c'est faux, mais archi faux.
J'avais pas confirmation qu'il m'avait piégé jusqu'à ce que je retrouve Gaston, donc l'agent de sécurité qui travaillait avec moi et qui me confirme, oui, effectivement, on t'a piégé. Et lui, il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix aussi, parce qu'il avait peur de perdre son emploi aussi.
J'ai rencontré les agents de sécurité qui ont été entre autres responsables du piège. Ils disent que c'est aussi parce que tu discutais un peu trop avec le syndicaliste de la boîte.
Oui, mais moi, ça m'a jamais marqué parce que c'est vrai que c'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Si je montais en salle de pause et que je buvais un café, il était là, on buvait le café ensemble. Puis on discutait en plus même pas du boulot, quoi. J'ai jamais discuté boulot avec cette personne. On discutait de tout et de rien, mais pas de boulot, quoi, parce que bon, j'avais rien à lui dire, moi. Pendant presque 2 ans, j'ai quand même... J'ai un petit peu sombré. Hein. J'arrivais pas à retrouver de boulot derrière, non. J'ai régularisé, j'ai dû rendre mon appartement et puis régler toutes les dettes de loyer que ça m'avait fait parce que j'ai pas rendu tout de suite. Et puis j'ai surtout payé mon crédit voiture et puis après je suis retournée chez mes parents pour plus avoir de frais et pouvoir payer les crédits que j'avais, quoi. Ah oui, je pétais les plombs. Hein. Oui.
Sans abri, on sonne l'alarme, faut se camoufler. Le pote du chef passe pour l'inspection, man, ça va swinguer. Toujours à donner des ordres au garde à vous, c'est le pur produit de la technocratie bien avisée. Le chef de service n'est qu'un couillon qui fait chier. Aïe, garde à vous, petit chef, c'est un grand fou stressé. Un gars qui prend ses rêves pour des réalités. Garde à vous, petit chef, c'est un grand fou stressé. Un gars qui voudrait que tout le monde soit à ses pieds. À courir après les grades, ils en oublient même d'où ils viennent. Ces ânes préféreraient vendre leur daronne plutôt que mal. Faire leur taf, tâcher que la motivation principale de ces merdes, c'est l'excès d'elle. Ah, si seulement je pouvais mettre leur contrat à durée déterminée ou autre stage à la poubelle, si aucun ça calmerait leur besoin de ça. Si tu crois manier tout, manifestement t'es fou, man. Tout désordre, petit chef, moi je m'en fous. Une fois par-ci, une fois par-là, tu veux me faire danser. Mais au bout du compte, t'es de le bas si je te rends tes coups. Arc, petit chef, ce bois, tambour et trompette, dirige son petit monde, croyant que tous les jours c'est fête. Il pousse à bout ses subalternes, disant que le travail. Il n'est pas fait alors que lui c'est le champion du Fardiente. Garde à vous, petit chef, c'est un grand fou stressé. Un gars qui prend ses rêves pour des réalités. Garde à vous, petit chef, c'est un grand fou stressé. Un gars qui voudrait que tout le monde soit à ses pieds.
Moi, ça m'est arrivé de surveiller un cadre qui avait 28 ans. François.
28 ans d'ancienneté.
Il avait 28 ans d'ancienneté, chef de la décoration. C'est un gars, la direction qui était arrivée lui a mis la pression. Et puis moi, on m'a dit, ben, quand il va à la brasserie, ben, faut aller à la brasserie. Quand il sort du magasin, ben, faut essayer de voir où c'est qu'il va. Et ben, même en ville, quand il allait en centre-ville, après ses heures de travail, par moment, ben, il fallait que j'aille des lieux où il fréquentait. Et puis quand il prenait un whisky pour dire un apéro avant de manger... Eh ben, je disais, il en avait bu 3. S'il en avait bu 2, c'était 6.
Et pourquoi ?
Ben, il fallait trouver une erreur. Il faut que la direction dise, voilà, nous, on veut pas d'ivrogne. Vous avez vu dans l'état où vous êtes. Hier soir, vous vous êtes bourré la gueule. Et le matin, à 6h du matin, à 7h du matin, quand il faisait un briefing, il lui disait, ben, attendez, avant de répondre à mes questions, est-ce que vous avez bien compris la question que je vous ai posée ? Ben oui, j'ai compris. Ben, il le prenait pour un fou. En lui mettant toutes ces pressions-là, il s'est retrouvé en clinique psychiatrique. Alors que c'était un gars formidable. Ça lui est arrivé une ou deux fois de me dire « Gaston, tu fais quoi là ? Tu me surveilles moi ou quoi ? Je vais au bar, je te trouve au bar. Je vais à la pizzeria, je te trouve à la pizzeria. » Je dis « Ben non, je dis François, t'inquiète pas. Attends, on va boire un coup tous les deux. » Et puis je lui payais un verre.
Et donc, vous en marquez 3.
Voilà, et moi, j'ai en marqué 3. Il y a eu même mieux. Mon collègue, lui, il l'a carrément filmé. Dans sa vie privée.
Ouais, moi, j'ai eu à le prendre en filature pendant plusieurs jours pour savoir ce qu'il faisait à l'extérieur, parce qu'il est en arrêt maladie. Donc, on voulait. Enfin, la direction m'a demandé de prouver qu'il.
Suite à la pression qu'on lui avait mis dans le magasin, il a pris un arrêt maladie, c'est ça ?
Il s'est retrouvé en clinique.
Et pendant. Il s'est retrouvé en clinique ?
Clinique psychiatrique, hein. shooter à fond.
Et suite à ça, donc non seulement il prend un arrêt maladie, ça suffit pas, mais on continue de le filer, de lui mettre la pression pendant son arrêt maladie.
Carrefour vous suit dans toute la France. Carrefour, Carrefour.
Donc là, on se trouve dans une brasserie à Lyon avec Monsieur Lemoulec, qui était cadre à Carrefour, au Carrefour d'Écully.
Ouais, j'étais chef décorateur, responsable du service décoration. Je suis rentré dans cette boîte parce que je trouvais que c'était une boîte très moderne et que j'avais envie de participer à son développement. En 75, quand je suis arrivé, il y avait 25 magasins. Aujourd'hui, on voit l'ampleur que ça a pris. Et voilà, je voulais faire partie de l'aventure. Hein, et je me suis donné à fond là-dedans. Il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait pas de nuit. Pas de problème pour moi, j'étais très enthousiaste de venir bosser tous les matins et c'était pour moi une nouvelle aventure parce qu'il se passe, ça va très vite dans la grande distribution, il se passe des choses, il faut prendre des décisions et vite, des fois très importantes, il faut les prendre très très vite et j'adorais ça, quoi. C'était mon truc, quoi.
Vous aviez l'esprit Carrefour, comment ça se passe à Carrefour?
Ah oui, moi je faisais partie de l'équipe de direction et j'étais un petit peu à part parce que le service déco, entre guillemets les artistes...
Vous étiez un peu les artistes de Carrefour, quoi.
C'est ce qu'on disait, hein, y a le mot artiste entre guillemets, hein, mais personnellement pour moi ça s'est dégradé au mois de septembre 2002 et un nouveau directeur qui est arrivé m'appelait tous les matins à 7h30, moi j'arrivais vers 5h, enfin à 5h, et à 7h30 le matin il m'appelait et il me donnait rendez-vous au milieu du magasin, et là, pour ainsi dire, tous les jours, je me prenais une avoinée parce que je n'avais rien compris à ce qu'il me demandait, et c'était, je vais manger un sandwich, je mange un sandwich dans la salle du personnel, et il passe et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, je mange un sandwich, j'ai faim. Il me dit, je croyais que vous aviez beaucoup de boulot, vous prenez le temps de manger quand même. Vous voyez, tous les jours, ce genre de petites vannes comme ça qui m'ont fait exploser. J'ai dit, il m'en veut. Et à la fin, ben, c'est au mois de mars 2003, j'ai dit, bon, ben, je vais voir mon médecin et je lui dis que j'en peux plus. Et là, il a décidé de m'arrêter et de me trouver une place en clinique psychiatrique parce que j'étais descendu bien bas. Voilà.
Là, vous aviez déjà repéré que vous étiez filé, entre guillemets, que vous étiez surveillé de près. Gaston, je crois.
Dans la galerie marchande, oui, c'est vrai, voilà, c'est ça le fil. Moi, je finissais vers 19h, hein, et j'allais prendre l'apéritif dans le bar de la galerie marchande. Et il était souvent là, à côté de moi, que même un jour, j'ai fini par lui dire mais t'es là pour me surveiller, quoi. À chaque fois que je bois un coup, t'es à côté de moi, quoi. Et il a fini par me l'avouer il n'y a pas très longtemps.
D'accord. Et ensuite, vous avez été filé aussi quand vous étiez en arrêt maladie.
Alors ça, je l'ai appris au mois de décembre de 2005. Hein. La personne qui m'a filmé, qui m'a contacté, qui, prise de remords ou je sais pas, m'a donné les films et m'a dit voilà ce que je faisais. Moi, j'avais vu ça dans les films, les filatures et tout pour les cadres des grands directoires de grandes entreprises. Mais je pensais pas qu'on allait se servir de tels moyens pour un petit cadre comme moi.
Et comment vous expliquez que quelqu'un de dévoué comme vous, on ait cherché à l'éliminer de Carrefour?
Ben, je pense, hein, c'est un bruit qui court, mais j'ai l'impression qu'il s'avère vrai. C'est que Carrefour est en train de changer tout son encadrement et de faire disparaître les anciens qui ont des salaires assez élevés. Pour remettre de nouveaux jeunes sur une nouvelle grille de salaire. Ils feront toujours, je pense, leurs 70 heures. Je pense, hein, je le vis pas, ça. Ils feront toujours leurs 70 heures, mais ils coûteront à Carrefour deux fois moins cher, je pense.
Et voilà un petit reportage de François Ruffin, le petit monde de la grande distribution. Merci à tous. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez également réécouter cette émission pendant 24 heures. Et vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org.
www.radiocontainment.org, ainsi que beaucoup d'autres émissions de La Base, si j'y suis, sur la grande distribution, sur un tas d'autres sujets. À signaler l'apparition du livre de Joseph Stiglitz et Andrew Charlton sur le commerce mondial, pour un commerce mondial plus juste, aux éditions Fayard, et à ne pas manquer l'article de Nicolas Beau et Hervé Liffand dans Le Canard Enchaîné, la belle affaire immobilière de Sarko, on en parle beaucoup, mais c'est une bonne combine si vous voulez avoir des conseils pour faire baisser, hein, si vous devez acheter un appartement d'importance, vous pouvez faire des économies si vous suivez l'exemple de notre futur président de la République, à n'en pas douter. À la technique aujourd'hui, Clément Léotard et Aurélie Fortin, c'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission, modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry, et Christophe Imbert est à côté du répondeur, ouvrant ses grandes oreilles et attendant vos messages au 01 56 40 37 37. Demain, si tout va bien dans La Basse, j'y suis, on partira au Kenya, on partira à Nairobi, où Antoine Chao a participé et assisté au Forum Social Mondial à la fin janvier dernier. Il est 16h.